Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Il y a des matins.
Il y a des matins.
Et oui, il y a parti, mon ordinateur a parti à un bloc de musique.
Eh bien.
Voilà, c'est des choses qui arrivent.
Bonjour Mathieu Tessier.
Bonjour Hélène Denis, vous
ça
allez
va?
Bien?
Oui, ça va, merci. Bon mardi gris à tous et à toutes. À l'émission aujourd'hui, on aura plusieurs choses. La chronique économie avec Michel Poitevin, qui est professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal, qui nous parlera, devinez de quoi? Oui, du budget de la Ville de Montréal, le premier sous la gouverne de Soraya Martinez-Ferrada. On parlera aussi beaucoup de littérature, puisque j'aurai le grand plaisir d'accueillir Sophie Bienvenue, qui viendra nous parler de son plus récent livre, son plus récent roman, Les Orphelines, publié au Cheval Doux. Et puis à la chronique littérature, Anne-Marie Aubin a lu deux livres, deux titres primés, Femme silencieuse, je mets mes rêves sur la table. Alors, côté technologie, ça va bien, Mathieu?
Moi, ça va très bien.
Oui? Vos machines?
Ah, mes machines, vous savez. La technologie dispose, l'homme subit.
L'homme se repose.
Non.
Non. Thérèse Moncalm, voici donc Thérèse Moncalm dans une reprise d'un beau grand succès de Gilbert Bécaud.
Sur son étoile, Thérèse Moncalm.
qu'elle interprète.
Tout à fait.
À la une du Journal de Montréal, 1,1 million de dettes étranglent Denis Coderre au bord de la faillite. C'est en page 3, Martin Jolicoeur qui signe criblé de dettes. L'ancien ministre et ex-maire de Montréal, Denis Coderre, vient de se placer sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Selon les documents consultés, il attribue ses ennuis financiers à maladie, décès, divorce, biopsie, harcèlement médiatique. Accompagné par le groupe Serpone, un syndic en insolvabilité de Saint-Léonard à Montréal, Denis Coderre entend présenter une proposition à ses créanciers le 26 janvier prochain. Si je me tourne vers le Devoir, on parle du budget de la Ville de Montréal, un premier budget de 7,67 milliards pour la mairesse Martinez Ferrada. Cap sur la prudence et les services aux citoyens pour le premier budget de Soraya Martinez Ferrada. La mairesse maintient certaines priorités de l'administration précédente, dont le développement du réseau cyclable. Et puis, j'en dirai pas plus pour l'instant, étant donné que ce sera le sujet de la chronique économie de Michel Poitvin qui sera présentée autour de 10 heures. Politique internationale, l'Europe, un couteau sous la gorge. Si de nombreux États membres de l'Union européenne affichent leur solidarité avec le Groenland, territoire autonome danois, peu semblent prêts à s'opposer frontalement aux États-Unis. C'est Clara Grégoire qui écrit ce texte, collaboratrice à Bruxelles. Plus que jamais, la pression s'accentue sur le Groenland. Un an après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump s'obstine à vouloir s'emparer du territoire autonome danois. Et par la force, si nécessaire, d'un ton assuré, le président américain l'a une nouvelle fois affirmé dimanche, les États-Unis prendront l'île d'une manière ou d'une autre. Autrement, la Russie ou la Chine le feront, a justifié le 47e président. Face à la situation, les Européens tentent tant bien que mal de réagir. La semaine dernière, 7 pays ont publié une déclaration commune appelant au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'inviolabilité des frontières. Parmi les participants, plusieurs poids lourds du continent comme la France, l'Allemagne et l'Italie, mais aussi énormément d'absents. C'est une réponse commune, mais seulement d'un noyau dur, pointe au Devoir Florian Vidal, chercheur à l'Université de Tromsø, en Norvège, le signe, selon lui, d'un manque d'unité en Europe sur le dossier du Groenland. Et si je regarde à la page 2, on apprend que le géant du jouet Mattel lance une Barbie autiste. Le géant américain du jouet Mattel a annoncé la mise en vente à compter de ce lundi d'une nouvelle poupée Barbie autiste, dernière venue dans sa gamme célébrant la diversité. Ce nouveau modèle rejoint la collection qui comprend des Barbies trisomiques, une Barbie aveugle ou encore une Barbie diabétique de type 1, a rappelé Mattel dans un communiqué. Charles Milliard fait le plein d'appui. Le candidat dans la nouvelle course à la chefferie du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, fait le plein d'appui au sein du caucus. Les députés Franz Benjamin, Désiré Maigra et Brigitte Garceau viennent de se joindre à lui. Il compte donc au total 10 appuis parmi les élus libéraux. Favori dans cette course, Charles Milliard s'est rendu lundi à la permanence du PLQ à Québec pour y déposer son dossier de candidature. Hormis l'ex-PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, seul l'agriculteur de la Beauce, Mario Roy, a manifesté son intérêt pour la course. Et puis, on voit l'ancienne brasserie Molson graffée. L'ancienne usine Molson du centre-sud de Montréal s'est réveillée samedi dernier avec un nouveau coup de peinture. Des graffitis ont été apposés sur ses façades est et ouest durant la nuit. Le propriétaire du bâtiment, le groupe Montoni, dénonce un acte de vandalisme. Les graffitis prennent la forme de lettres imitant la police du logo de Molson qui se trouve sur les façades de l'ancienne brasserie et utilise ce dernier pour former les mots Kong, Slock, Kao et June. Ces graffitis grand format pourraient être des signatures révélant les auteurs des graffitis comme Kong et Slock sont deux graffeurs connus à Montréal. Alors, Kong s'appelle K-O-N-G et Slook, S-L-U-K. Et puis, à la une de la presse plus, c'est un témoignage de Hugo Dumas, le chroniqueur télé très populaire, connu, qui s'est fait prendre les dangers de Marketplace. Je vous lis son texte tout de suite après la chanson que voici.
Le délicatesse. Une couverture en laine, angora, un édredon de soie, un feu de bois qui ne s'éteint pas. Qui m'appelle un arc-en-ciel, un battement
avec André Galamba à la basse, Paolo Frezu à la trompette, c'était Bia qui chantait La délicatesse.
Alors, Hugo Dumas, Les dangers de Marketplace, c'est le grand titre à la une de la presse d'aujourd'hui. Notre chroniqueur cherchait à vendre son iPhone à l'aide des petites annonces de Facebook. La transaction a mal tourné lorsqu'un acheteur s'est présenté chez lui pour l'arnaquer. À vendre iPhone Pro Max 16 256
Go. Gig.
Ah, merci. C'est écrit Go, G-O, mais on dit G, merci. Utilisé 6 mois, état comme neuf, batterie à 100 % étui MagSafe en bonus et pas d'égratignure sur le boîtier, prix 1300 $. Depuis plusieurs années, j'utilise Marketplace, écrit Hugo Dumas, les petites annonces du réseau social Facebook pour vendre mes anciens téléphones cellulaires quand je les remplace par des modèles plus récents. C'est un moyen rapide et efficace d'effectuer ce type d'opération. En fait, je n'ai jamais éprouvé de problème avec Marketplace avant la semaine dernière, où ma dernière transaction a vraiment mal tourné. Je la raconte pour vous éviter ce type de danger et de frousse inutile. Le premier acheteur potentiel de mon iPhone s'est pointé chez moi dimanche dernier à l'heure du souper. Appelons-le Sacha, un jeune homme d'environ 25 ans, tout vêtu de noir. Je lui avais parlé au téléphone une demi-heure plus tôt. Tout me paraissait OK avec lui. Sacha sonne à la porte, je l'invite à entrer dans le vestibule et pas plus loin dans la maison. Et en une seconde, il retire ses chaussures et fonce d'un pas décidé dans le corridor. « J'ai vraiment envie de pipi. Est-ce que je peux utiliser vos toilettes? » Avant même que je ne comprenne ce qui se passe, il s'enferme dans la salle de bain. Très étrange et inconfortable comme situation, mais bon, ça s'est déroulé tellement vite que c'est difficile de revenir en arrière. Je guette les mouvements de Sacha par le rayon de lumière qui filtre sous la porte des toilettes. Et s'il volait un flacon de parfum ou mon enceinte Bose près du meuble lavabo? Après quelques minutes, Sacha sort et exige de s'asseoir à la table de cuisine. « C'est une belle maison que vous avez. Est-ce que vous vivez seul? » m'interroge-t-il avant même que je lui montre le iPhone Pro Max qui l'intéresse. Pourquoi me pose-t-il ce type de questions? S'il cache une arme dans son manteau, comment pourrais-je me défendre? Je commence à ne pas me sentir bien. Sacha observe et manipule le téléphone dont le contenu avait été complètement effacé. Je ne suis pas si tarte que ça. Et me demande de le connecter au Wi-Fi pour tester des fonctionnalités. Une requête raisonnable quand on s'apprête à acheter un appareil haut de gamme. Pourtant, mon inquiétude ne se dissipe pas, mais je n'arrive pas à en identifier la source. Et Sacha continue dans sa lignée de questions bizarres. « C'est quoi la musique qui joue? » Après une vingtaine de minutes d'inconfort, Sacha m'envoie un virement Interac qui n'arrive jamais. Je reprends mon téléphone. « C'est vrai qu'on ne sait pas à qui on a affaire, » enchaîne Sacha, qui remet ses souliers en s'informant de la banque la plus proche. « Je vais retirer de l'argent et je reviens, » affirme-t-il. « Je ne le reverrai jamais. » Le deuxième acheteur potentiel, appelons-le Salim, débarque une heure après Sacha. Ses enfants attendent dans l'auto. Salim se procure des téléphones usagés au Québec pour les revendre en Afrique. Il connaît bien tous les modèles fabriqués par Apple. Salim reste dans le portique, on apprend de ses erreurs, et il tique en pianotant sur mon iPhone Pro Max. « Quelque chose cloche », observe-t-il. Puis, le verdict de Salim tombe. « Votre téléphone est un faux. C'est une copie qui a été fabriquée en Chine. » Impossible que je lui réplique. Je lui montre la facture originale. Ce téléphone a été acheté au Apple Store, rue Sainte-Catherine-Ouest, à Montréal. Si c'est une façon de négocier le prix à la baisse, ça ne marchera pas avec moi. Et Salim repart bredouille. Dans la nuit, cette séquence d'événements incongrus me trotte dans la tête. Je rallume mon vieux cellulaire et effectivement, comme l'avait remarqué Salim, il est lent. La police de caractère a légèrement changé et là, je pense tout comprendre. Le premier acheteur, Sacha, y a installé un logiciel malveillant pour pirater mes données. Prochaine destination, le Genius Bar de l'Apple Store le lendemain matin. Après 3 secondes, la technicienne spécialiste a résolu le mystère. L'appareil Apple que je lui ai apporté est un faux. Pardon? Et là, tout le film de la veille a rejoué en accéléré. J'avais été détroussée dans ma propre cuisine sans m'en rendre compte par un voleur super habile et agile. Sous ses airs d'adolescent ou d'adolescent, le jeune Sacha, le premier acheteur potentiel du téléphone, était un pickpocket professionnel. À mon insu, il a substitué à mon appareil Apple un clone chinois qui ressemble à s'y méprendre à un vrai iPhone. Je n'ai rien vu aller, comme si j'assistais malgré moi à un tour de magie de Luc Langevin exécuté à la perfection. Pourtant, je suis restée à 3 pieds de l'arnaqueur, tout le temps. Sacha n'a rien volé d'autre chez moi. Il a effacé son profil Facebook et son numéro de téléphone officiel, entre guillemets, a été déconnecté. À mon poste de police de quartier, l'agente qui a pris ma déposition m'a dit que j'avais été chanceux de ne pas avoir été aspergé de poivre de Cayenne, car les transactions marketplace impliquant des appareils électroniques de grande valeur dégénèrent de plus en plus en agressions physiques. Gaz, poivre, attaque au couteau. Un homme a même reçu des projectiles d'armes à feu en 2023 pendant l'achat d'une console PlayStation, selon la police de Montréal. Entre 2024 et 2025, les crimes associés à des transactions marketplace ont grimpé de 34 % sur le territoire de l'Est de Montréal, qui comprend Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Anjou, Pointe-aux-Trembles, Saint-Léonard et Rivière-des-Prairies. C'est assez représentatif de toute l'île de Montréal, indique le commandant Yad Anna du service de police de la ville de Montréal. Les gangs de rue se cachent très souvent derrière ces vols bien orchestrés de tablettes électroniques, d'ordinateurs portables, de cartes graphiques ou de téléphones cellulaires qui se négocient par le truchement de marketplace. Ça commence par de petits réseaux de quartiers, mais qui sont de plus en plus organisés, note le commandant Anna en insistant sur un point important. Ces crimes servent à financer des activités criminelles beaucoup plus graves. D'où l'importance de déposer une plainte officielle, même si les chances de récupérer notre bien ou notre argent sont quasi nulles. Et pour éviter des fraudes comme la mienne, il existe 18 zones d'échange sécurisées sur le territoire de l'île de Montréal qui sont munies de caméras en fonction 24 heures sur 24. Elles se trouvent facilement sur le site web du SPVM. Selon le commandant Anna, je serai la première personne à avoir été victime de cette arnaque de téléphone clone chinois à Montréal. Du moins, la première personne qui l'a déclaré de manière officielle. Ça coûte cher d'être un pionnier comme ça. Plus de 1 300 $ pour être précis. Alors, on a le site qui nous mène à la liste des zones d'échange de sécurité sur l'île, sur le territoire de l'île de Montréal. Et aussi, quand on va sur le site spvm.qc.ca, on nous donne des conseils de prévention en lien avec les transactions en ligne. Ne payez pas le bien sans l'avoir vu. Se donner rendez-vous dans un lieu public, prendre des précautions pour identifier le vendeur. Si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est probablement une fraude.
Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis, ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs, et il a dit: la vie ne vaut rien. Dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami. Là je dis: rien, 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 rien ne vaut la vie. Il a vu l'espace qui passe entre la jet set, les faces, les palaces, et puis les techniciens de surface. J'espère dans les clochers, les monastères, voir le vieux sergent Pépère, mais ce n'est que Richard Gere. Il est entré comme un insecte sur site internet, voir les gens des sectes, et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis: rien, 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 rien ne vaut la vie. Il a vu manque d'amour. Comme la vie c'est détergent, et comme ça nettoie les gens. Il a joué jeux interdits pour des amis endormis, la nostalgie. Et il a dit: ah, la vie ne vaut rien. Quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis:
Alain Souchon et sa chanson « La vie ne vaut rien ».
L'actualité culturelle en bref. Trois citations pour Charlotte Cardin, victoire de la musique. L'autrice, compositrice, interprète québécoise Charlotte Cardin a récolté trois sélections en prévision des 41e victoires de la musique en France qui se dérouleront le 13 février. En lice pour l'artiste féminine de l'année, Charlotte Cardin sera assurément de cette soirée où la célébration de l'amour pour la chanson française sera à l'honneur. À cette prestigieuse catégorie dans laquelle on trouve également Vanessa Paradis, Aya Nakamura et Santa, la Québécoise ajoute des citations dans les catégories chansons originales de l'année et création audiovisuelle de l'année, vidéoclip de toutes deux pour Tant pis pour elle. On pourrait l'écouter, Mathieu, un moment donné, d'ici la fin de l'émission. Pierre-Yves Laure à la barre du Moment de vérité. Radio-Canada ressuscite le Moment de vérité, cette émission de défi qu'animait Patrice Lécuyer de 2007 à 2011. La nouvelle mouture sera présentée par Pierre-Yves Laure et s'adressera cette fois à un public adolescent. C'est le deuxième diffuseur qui a annoncé lundi l'arrivée prochaine en ondes d'une émission mettant en vedette des adolescents. Crave a confirmé le retour avec Mathieu Dufour de l'émission culte Méchant changement pour l'automne 2026. Le Moment de vérité dans sa nouvelle formule est prévu sur ICI Télé pour la saison 2026-2027. Les jeunes de 15 à 17 ans qui souhaitent participer à l'émission ont jusqu'au 1er mars pour s'inscrire. À l'animation, Pierre-Yves Laure sera épaulé de Chloé Deblois. Et c'est finalement José Godette qui remplacera à compter de l'automne Guy Jodoin à la barre du jeu questionnaire Le Tricheur. L'annonce a été faite lundi durant l'émission Sucré Givré, le nouveau magazine culturel de TVA animé par Jean-Philippe Dion, qui est également producteur du Tricheur. Tout est dans tout, comme dirait l'autre. Guy Jodoin avait fait savoir en août dernier que cette saison-ci serait sa dernière. Il en était l'animateur depuis les débuts en 2012. En entrevue avec la presse en octobre dernier, il avait confié être un peu déçu à l'idée de quitter son poste. Le tournage de sa dernière émission est prévu pour la mi-février. Les tournages ayant plusieurs mois d'avance sur la diffusion, on pourra le voir à la barre du Tricheur jusqu'au printemps. Pour José Godette, il s'agit d'un grand retour à TVA après son départ en 2022 du talk show « Ça finit bien la semaine » qu'il a co-animé avec Julie Bélanger durant 9 saisons. On parle du budget de la Ville de Montréal à la chronique économie de Michel Poitvin et ensuite, nous aurons l'occasion de parler avec l'autrice Sophie Bienvenu.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et c'est l'heure de la chronique économie avec Michel Poitvin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Hier, la Ville de Montréal a présenté son budget, le premier de Soraya Martinez-Ferrada.
Oui. Son premier budget, il était attendu. D'une part, bon, les budgets des villes, les villes sont des gouvernements de proximité, donc ça nous touche directement, puis parfois assez rapidement là, à notre portefeuille, les décisions qui sont prises par nos élus municipaux. Puis aussi, la ville est relativement fortement endettée, puis on en avait parlé un peu pendant la campagne électorale municipale, donc on attendait son budget. L'équipe de la mairesse, Mme Ferrada, effectivement, on voulait réduire l'endettement de la ville, puis on va faire certains efforts dans ce sens-là. Alors, le budget, c'est énorme, 7,66 milliards de dollars, une augmentation de 5,4% par rapport à l'an dernier, puis c'est un budget qui est prévu équilibré. Donc, les revenus sont budgétés, sont égaux aux dépenses budgétées.
Michel, j'ai vu dans Le Devoir un premier budget de 7,67 milliards. Je ne peux pas vous contredire.
J'ai dit 66, peut-être j'ai mal arrondi, je ne sais pas, ou eux, là, mais 7,66 ou 7,67 milliards, oui. Donc, les revenus... la principale source de revenus, ce sont les taxes foncières. C'est 63% des revenus de la ville. Puis on va avoir une hausse moyenne des taxes foncières de 3,8%. Mais ça varie quand même par arrondissement. Il faut dire que les taxes foncières, bon, évidemment, les propriétaires sont touchés directement, mais indirectement, les locataires aussi, parce que les propriétaires, la plupart du temps, vont passer la hausse de taxes dans des hausses de loyer là, lors du renouvellement du bail. Ils ont le droit de le faire, puis j'imagine que la plupart doivent le faire. Donc, ça touche tout le monde. Donc, si je regardais un peu rapidement là, la variation par arrondissement, l'île Bizarre-Sainte-Geneviève, là, dans l'ouest, nord-ouest de l'île, plus 6,3% de hausse de taxes foncières. Dans l'est, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, plus 5,7%. Puis un peu plus au centre, Rosemont et Verdun, 5,4%. Donc, ce sont tous des arrondissements où les hausses sont supérieures à la hausse moyenne. Dans le bas, je ne ferai pas tous les arrondissements, il y en a plusieurs, là, mais dans le bas, Ville-Marie, seulement une hausse de 2%, puis Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, 1,9%. Donc, ça, c'est pour la principale source de revenus, là, les taxes foncières. Les autres taxes, on en parle moins, là, mais la ville tire des revenus, des taxes de bienvenue, le transfert des villes reconstituées. Là. Souvenez-vous quand il y a eu les fusions municipales à la fin des années 90, si je me souviens bien, au début 2000, puis qu'ensuite certaines villes avaient voté pour se reconstituer. Elle donne des redevances à la ville-centre, Montréal, pour toutes sortes de dépenses, transports en commun, l'itinérance, tous des services assurés par la ville-centre. Il y a aussi des transferts des gouvernements provinciaux et fédéraux qui vont à la ville.
Alors justement, entrons dans le vif du sujet. Comment cet argent va être dépensé, Michel?
Bon, alors, la dépense la plus importante... Puis on voit que le budget d'une ville, c'est différent évidemment d'un budget de gouvernement provincial. Quand tu regardes la province, une fois que tu as rentré la santé puis l'éducation, il ne reste pas grand-chose pour le reste. Il y a deux gros postes. Pour la ville, il y a deux gros postes, mais ils sont de moindre ampleur que ceux pour le provincial. La sécurité publique, 17,9% accapare 17,9% des dépenses. Et puis où le bas blesse, la dette de la ville, donc le paiement des intérêts, c'est 16,6% des dépenses, qui équivaut à 1,3 milliard de dollars par année qu'on paie en frais d'intérêt. C'est énorme. Transport en commun, 10,5% des dépenses. Plus bas, on a le réseau routier, donc le transport en commun, 10,5%, réseau routier, 6,2%. Finalement, les choses qui nous touchent directement, les déchets, 3,4%, puis la neige, 2,7%. Donc, c'est la ventilation de ces dépenses-là. Ce qu'il faut retenir, je pense, sécurité publique puis la dette qui sont des gros postes budgétaires. Puis ensuite, le transport en commun qui est également important.
Ouais. À propos de la dette, la mairesse a dit que la limite de la carte de crédit de la ville était pas mal passée.
Elle était pas mal pleine. Je pense que ça nous prenait une administration municipale qui s'attaque au problème de la dette, qui était plus que 100% des revenus de la ville. Donc, on va ramener ce taux d'entêtement-là à 100% là, dans les prochaines années. Les dépenses notables, là, peut-être qu'on peut mentionner, pour l'itinérance, il y a quelques années, là, on dépensait environ 1 ou 2 millions. L'an dernier, c'était 9,8 millions. Puis là, Mme Martinez-Ferrada fait passer le budget à 29,9 millions. Donc, on multiplie pas mal par trois le budget consacré à l'itinérance. On sait que c'est un problème important à Montréal. Là, est-ce que ça va être suffisant? Je ne le sais pas. Je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais c'est certainement une hausse qui est très importante.
Oui, il faudra savoir comment cet argent-là sera dépensé.
Oui, et puis est-ce qu'on va impliquer les ressources, les gens sur le terrain et tout. Des fois, des ONG font beaucoup pour l'itinérance, là, donc à voir effectivement comment ça va être dépensé. Une dépense ponctuelle, j'ai mis notable, 18,7 millions pour le championnat du monde de vélo sur route qui va avoir lieu à Montréal l'été prochain. Moi, j'aime bien le sport, mais je suis moins fan d'un investissement public dans le sport. Quoi que ce soit, c'est pas un sport professionnel autant que pourrait l'être le baseball ou le hockey. Là. Mais c'est quand même une dépense qui est notable, disons.
Mm-hmm.
Une autre façon de regarder le budget, c'est le coût par maison unifamiliale moyenne. Là, je pense que c'est dans un article de la presse où j'ai vu qu'on donnait cette ventilation. Donc, pour, puis là, je ne donnerai pas tous les postes, là, mais pour une maison unifamiliale moyenne, donc de prix moyen, à chaque année, on paie 820 $ pour la dette, 519 $ pour le transport en commun, 306 pour le réseau routier, les eaux, les égouts, 222, déchets, ordures, 168, puis la neige, 133. Donc, c'est une autre façon de voir que la dette occupe une place importante là, par année. Mm-hmm. Ça coûte un ménage moyen dans une maison moyenne, disons, 820 $
Ça occupe le haut du pavé.
Pardon?
J'ai dit la dette occupe le haut du pavé là, dans ce palmarès-là.
Je n'ai pas dit le haut, probablement, parce que ça, c'est juste une autre façon de présenter les pourcentages que j'avais tout à l'heure. La sécurité publique doit être légèrement en haut, peut-être autour de 850 ou 900 $ mais la dette, c'est le deuxième poste avec 800. Donc, c'est pas mal le haut, pas le plus haut du pavé, mais pas mal haut.
Ouais.
Trop haut, je dirais. Donc, pour s'attaquer justement au problème de la dette, l'équipe de la mairesse veut réduire la taille de la fonction publique. Elle en avait parlé en campagne électorale de 1000 postes à date. Bon, ça fait pas longtemps qu'elle est là. Elle est arrivée. Les élections ont eu lieu en novembre, puis elle a commencé au 1er janvier. Mais il y a eu 65 postes de retranchés, mais on a eu 40 embauches dans les arrondissements, donc une coupure nette de 25. Mais on commence, alors on va voir. Ce qui m'inquiétait un peu, c'est un autre article dans la presse qui est... Je l'ai-tu gardé ici?
Dans la presse d'aujourd'hui, Michel?
J'imagine. Dans la presse publiée, j'essaie de retrouver l'article. Je pense que j'ai malheureusement enlevé mon onglet, mais c'était sur la démocratie de la ville, la démographie de la ville de Montréal.
Oui.
Donc, il y a des chiffres de l'ISQ, donc c'est des prévisions sur 25 ans. Donc, le premier 25 ans des années 2001 à 2025, la population de la ville a augmenté de 18 % alors que celle des couronnes nord et sud de 37 % Donc, le poids de Montréal diminue, mais on avait quand même une hausse du nombre de personnes qui vivaient sur l'île. L'ISQ prévoit maintenant, de 2026 à 2051, donc le prochain 25 ans, une baisse de 12 % de la population, alors qu'on aurait une hausse d'à peu près 3-4 % pour les deux couronnes nord et sud. D'ici 2030, donc ça, c'est pas loin, là, c'est d'ici 5 ans, on prévoit une baisse de 10 % de la population de la ville qui passerait de 2,2 millions à 2 millions. Pourquoi? Ben, on explique en partie le coût du logement, des règles plus serrées de l'immigration. Bon, Montréal attirait son lot d'immigrants. Donc, la population de la ville diminue. Puis ça, ben, on parle de budget. Ce n'est pas une si bonne nouvelle quand on regarde le côté budgétaire. Ça va avoir des pressions fiscales importantes à financer le service de réseau routier et de transport en commun. Même l'itinérance, là, on a un paquet de frais, j'appelle ça des frais fixes pour gérer une ville, comme le réseau de transport en commun qui a 2 ou 2,2 millions. On va avoir à peu près le même réseau à entretenir, la même chose pour le réseau routier. Une autre conséquence, donc les pressions fiscales, c'est-à-dire qu'on va être moins à payer pour tous ces services-là. Donc, il va y avoir des hausses de taxes, puis ça pourrait accélérer l'immigration là, l'île de Montréal vers les couronnes nord et sud. Ensuite, le poids politique de Montréal dans la communauté métropolitaine de Montréal va diminuer. Donc, la communauté métropolitaine, là, c'est toute la grande région métropolitaine qui englobe les couronnes. Bien, le poids de l'île de Montréal pourrait diminuer, ce qui n'est pas de bonne nouvelle pour la ville-centre. Puis en même temps, suite à la COVID, on a une baisse de fréquentation au centre-ville. La valeur foncière des tours à bureaux a baissé. Il y a moins de gens au centre-ville. Si la population baisse, ça va juste exacerber ce phénomène. Donc, ce n'est pas des super bonnes nouvelles. Est-ce qu'on est capable de renverser la tendance, de rendre Montréal plus attrayante Je pense que ça pourrait être un défi important pour la nouvelle équipe municipale en place.
Oui, c'est pas les défis qui manquent, mais celui-là est très important. Et concernant la démographie, oui. C'était dans la presse. En tout cas, c'est Maxime Bergeron qui a publié le texte hier en soirée. Merci, Michel.
Oui. Très bien. Alors, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Une chanson qu'écoute Elsa, le personnage central du roman de Sophie Bienvenue, son plus récent intitulé « Les orphelines » publié aux éditions Cheval Doux. Et Sophie Bienvenue est avec nous, elle est au bout du fil. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Merci pour cette belle découverte littéraire, mais aussi belle découverte musicale. D'ailleurs, on en fait plusieurs. La musique prend de la place quand même dans votre récit, dans votre roman.
Oui, oui, oui. Ben, j'aime toujours ça parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand je lis, de découvrir l'univers musical, artistique de l'auteur. Alors, j'aime bien le faire aussi dans mes romans.
Et comment vous présentez justement votre roman Les Orphelines?
Ben, j'ai du mal à le présenter. Je vous avoue que c'est celui que j'ai écrit que j'ai le plus de mal à résumer parce qu'il y a beaucoup de choses que je peux pas révéler sans gâcher la lecture de quelqu'un qui l'aborderait pour la première fois. Je pense que je dirais que c'est une histoire d'amitié, de rédemption.
Ah oui, c'est tout à fait ça. Pour l'avoir lu, je peux le confirmer. Et je parlais du personnage principal, Elsa. Il y a d'autres personnages qui gravitent autour d'elle qui sont aussi très importants. Mais comment vous décririez le personnage d'Elsa?
Je vous dirais que c'est quelqu'un qui a été très blessée, mais qui est très résiliente. Mmh. Et j'ai le mot guerrière qui me vient en tête, mais pas une guerrière avec une lance et un fusil, mais vraiment quelqu'un qui a dû se battre dans la vie et pour être aimée, pour être reconnue, pour avoir sa place. Et elle la trouve avec cette amitié qu'elle partage avec Magda. Et c'est ça, je pense que c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Oui, encore une fois. Et Magda est là, mais elle ne parle presque pas tout au long du roman. Le roman prend forme En fait, c'est un long monologue qui est adressé à une amie. Cette structure-là vous permettait de dire quoi d'autrement que si vous l'aviez fait par le dialogue ou sinon la narration classique?
En fait, c'était dans l'idée que c'est un aveu très difficile à faire qu'elle doit faire à son amie. Et je l'imaginais mal devoir s'arrêter. Je pense que ça lui a pris un courage énorme de s'asseoir avec son amie pour lui dire ce qu'elle a à lui dire. Et ça devait, à mon avis, sortir d'un souffle, parce qu'il y a beaucoup de choses que c'est la première fois qu'elle avoue, que c'est la première fois qu'elle aborde, que c'est la première fois qu'elle réalise. Et donc, j'ai vraiment l'impression que ça devait sortir comme un flot, en fait.
Mm-hmm. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez écrit, d'un souffle?
Oui.
Oui?
Oui, oui. En fait, j'avais le défi de l'écrire en une semaine, en 7 jours, en fait. Mais finalement, j'ai raté mon défi. Je l'ai écrit en 10 jours. Mais reste que j'ai dû faire une pause, en fait, au 5e jour.
Est-ce que c'est un défi personnel ou...
Oui, j'aime bien.
Ah, d'accord.
Des petits défis comme ça de... Oui, c'est... J'aime les challenges et comme le dernier, je l'avais écrit en 3 semaines, je me suis dit, ah, pourquoi pas 7 jours?
Et pourquoi vous êtes arrêtée au 5e jour?
Parce que ce livre-là, il est très lié au deuil de ma meilleure amie. Et le personnage de Kiki est vraiment beaucoup inspiré d'elle.
Mm-hmm.
Et donc, ce roman-là, c'était un petit peu pour m'aider à passer au travers du deuil. Et en fait, j'ai réalisé au 5e jour, quand j'approchais la fin, que le point final sur ce roman-là allait être une sorte de point final entre ma relation, entre la relation entre elle et moi, que j'étais pas encore prête à faire. Et donc j'ai dû faire beaucoup d'introspection pendant ces quelques jours où j'ai arrêté d'écrire pour être capable de le finir.
Le deuil, est-ce qu'il y a une sorte d'évolution qui a été faite à travers votre deuil de cette amie-là?
Oui, tout à fait. Le roman a vraiment beaucoup beaucoup aidé. Mais c'est l'avantage d'être autrice, d'être auteur, d'être artiste, en fait, de pouvoir, pour utiliser un mot anglais, outsourcer ses émotions et de pouvoir faire des thérapies gratuites, en final.
Oui. Et pensez-vous que le lecteur ou la lectrice, parce que... vous n'y allez pas nécessairement avec le dos de la cuillère, si je peux m'exprimer comme ça. Le lecteur en prend plein la gueule. Quand vous écrivez, est-ce que vous pensez aux réactions de vos lecteurs, de vos lectrices?
Pas du tout. J'écris pour moi. En fait, j'écris... quand j'écris, c'est comme si je voyais un film que je fais juste raconter en écrivant, en fait. Donc c'est à ça que je pense. Je suis vraiment dans l'émotion, dans ce que j'ai envie de raconter. Mais le lecteur arrive après, en fait. Arrive une fois que le livre est fini et que la révision, la direction littéraire est faite. Il n'y a plus rien à changer. Là, je me dis, mon Dieu, les gens vont détester.
Ah oui, vous vous dites ça à quoi? À chaque fois?
À chaque fois, je trouve ça jamais assez bon. J'ai peur que les gens aiment pas. J'ai peur. C'est terrible.
J'imagine.
Ce moment-là de doute, il est, et je le partage avec beaucoup d'auteurs et d'autrices. Mais ce moment-là, il est assez terrible. Quand même.
Oui, le doute qui fait quand même avancer.
Oui, qui fait. Mais puis on n'a pas le choix. Surtout le roman, il est écrit. Il faut à un moment, il faut qu'il soit publié. C'est ça la vie d'un roman.
Alors, j'imagine que vous l'assumez pour avoir été jusqu'au bout du processus là, de le remettre à la maison d'édition et qu'ensuite il soit publié et que les gens puissent le lire.
Oui, bien sûr. C'est un petit peu un advienne que pourra, en fait.
Ah, oui.
Mais oui, je l'assume et je l'aime beaucoup.
Et Elsa, dans Les Orphelines, c'est-à-dire on met de l'avant l'amitié féminine entre Elsa et Magda, c'est comme un lieu de vérité. Est-ce que vous diriez, parce que Elsa, elle a eu une enfance difficile, tout comme sa mère Kiki, elle est blessée, elle a aussi fermé les yeux sur beaucoup de choses, elle s'est tue très, très souvent. Et puis, dans Les Orphelines, elle devient comme un livre ouvert, diriez-vous, devant son amie Magda. Est-ce que vous diriez que l'amitié est quelque chose de salvateur?
100%. C'était ça l'idée en arrière du livre, c'est que je voulais faire un livre de femme. Pour rendre hommage à mes amis, à mes amitiés qui sont mes amis sans lesquels j'aurais pas vraiment pu passer au travers des deux dernières années. Et leur rendre hommage et qu'elles existent quelque part.
Et la question que les auteurs et les autrices n'aiment pas trop se faire poser, là, je...
Et vous me la posez.
Est-ce que votre roman est inspiré de votre vie? Ben, vous l'avez dit tantôt par rapport à votre amitié personne qui n'est plus.
Effectivement, c'est le roman qui est le plus proche de moi, en fait. Bien, il est inspiré, c'est absolument pas de l'autofiction, mais il y a toujours des... dans mes romans, il y a toujours un petit peu de moi, de choses que j'ai vécues, etc., plus ou moins consciemment. Celui-là, c'était plus conscient, c'est pour ça que j'ai aussi amené l'enfance d'Elsa en France, parce que je savais que je voulais beaucoup aller dans l'enfance dans ce roman-là, et je voulais que ça sonne véridique, et j'ai pas connu l'enfance au Québec, donc j'aurais pas pu... J'aurais probablement qu'une Québécoise qui aurait grandi, qui serait née en 1980, ne se serait pas retrouvée dans le roman si je l'avais mis au Québec. Donc c'est pour ça que je suis allée en France. Donc effectivement, c'est celui qui se rapproche le plus de moi. Elsa est le personnage qui se rapproche le plus de moi, en fait.
OK, je l'appelle Elsa depuis tantôt, mais c'est Elsa.
Ah ben c'est comme vous voulez, moi. C'est vraiment juste à cause de la Reine des Neiges. Mais,
ah oui, la Reine des Neiges, vous influencez?
Ben en fait c'est parce que mon ex-mari m'appelait la Reine des Neiges.
Oh.
Donc parce que j'ai a priori j'aime le froid et donc c'est ça, et comme je savais que le personnage allait avoir beaucoup de moi, je l'ai appelée Elsa.
Est-ce que vous vous efforcez à trouver l'équilibre entre dire le pire et laisser passer la beauté, parce que il y a des choses extrêmement graves et douloureuses dans les orphelines, mais il y a aussi de la poésie, de la lumière.
Ben c'est la vie, c'est ça. En fait, je veux faire des romans, je veux écrire des romans qui soient le plus proches possible des vraies émotions humaines. Et c'est rare qu'il y ait quelque chose de 100% négatif, même quelque chose de 100% positif. Il y a toujours des zones de gris entre les deux. On n'est jamais tout heureux ou tout malheureux. Donc c'est pour ça que qu'il y a ça dans mes romans. J'ai un moment en particulier que je peux pas nommer pour les gens qui l'ont pas lu, mais il se passe quelque chose de très grave. Mm-hmm. et elle trouve encore le moyen de faire une blague, mais c'est aussi ma façon d'aborder les choses négatives. C'est qu'à un moment, c'est quand c'est trop, il faut une soupape et il faut quelque chose de lumineux ou de drôle.
C'est votre façon de vous protéger, l'humour?
Je le pense, oui.
Oui. Et quelle place vous accordez à la littérature dans le travail de réparation?
À la littérature que je lis ou que j'écris?
À la littérature que vous lisez. Et ensuite, à la littérature que vous écrivez, s'il y a une différence.
La littérature que j'écris, c'est sûr que c'est
thérapeutique.
C'est vraiment... très, très thérapeutique pour moi, donc la littérature que je lis, j'essaye justement de lire des choses qui sont très éloignées de ma réalité à moi. Pour moi l'art, la littérature en général, ça me permet d'aborder des choses que je connais pas, c'est m'évader qui me vient, mais c'est pas évader genre aller en vacances, c'est vraiment rencontrer des réalités que j'ai pas l'occasion de rencontrer. Et par moment, même je peux lire le roman d'une autrice nigériane par exemple, et ce moment où nos deux réalités se rencontrent et où je me reconnais dans quelque chose qu'elle écrit, ce moment-là est très précieux.
Sophie, bienvenue. J'ai volé une question alors Adler, que vous connaissez sans doute.
Oui.
Jusqu'à quel point la famille est responsable de ce que l'on devient?
Je pense que c'est une question que les scientifiques se posent, innée ou acquise, et à laquelle ils n'ont pas répondu. C'est vraiment une question que je me pose souvent aussi. Je scie entre, entre 50 et 100%, je vous dirais. Pas 100%, mais 80. J'ai l'impression qu'on naît avec un patrimoine, avec des capacités, avec des talents et des défauts, et qu'ensuite la famille, d'abord dans les premières années de l'enfance, ou alors aggrave les défauts, ou alors améliore les qualités. C'est ça, mais je pourrais pas vous donner comme un pourcentage. Je réfléchis et je serais très très intéressée qu'on puisse répondre à cette question.
Oui,
c'est vraiment une question qui m'habite. Ouais.
Mais c'est une question qui m'habite aussi, surtout quand j'ai la chance de parler avec une autrice, Sophie Bienvenue, qui a écrit Au pire, on se mariera, Chercher Sam, Autour d'elle, J'étais un héros et maintenant Les orphelines. Et vous êtes aussi scénariste d'une télésérie qu'on peut retrouver sur tout.tv, Malgré moi.
Oui, c'est ça.
Alors, ben, merci beaucoup pour cette entrevue, Sophie Bienvenue. Et
merci,
je rappelle que le titre de votre roman s'intitule le titre de votre roman est Les orphelines et c'est publié au Cheval Doux. Est-ce que vous planchez sur un autre projet littéraire en ce moment, en quelques secondes?
Pas pour l'instant, non.
Non, alors bon repos.
Merci.
Bonne année 2026.
Merci à vous aussi.
Merci. On continue de parler livres, littérature avec notre chroniqueuse Anne-Marie. Restez là.
Écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
One Way, une chanson de Marc Derry.
Oui, qui fait partie de son plus récent album. Allons-y avec la chronique livre et Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Vous n'avez pas chômé ces derniers jours, vous avez lu deux livres.
Oui, deux livres, toutefois qui sont très courts, mais aussi parce que j'y serai pas la semaine prochaine. Alors, je me suis dit, bon, j'ai tout pour deux semaines.
Oui, oui, nous faisons relâche la semaine prochaine. Alors, deux livres, ouais. Un de 133 pages et l'autre de 130 pages. Le premier, Femme silencieuse aux éditions Héliotrope.
Oui, c'est le titre, le livre lauréat du prix Radio-Canada Caroline Dawson 2025, qui était aussi finaliste au prix du gouverneur général cette année. D'une jeune autrice qui a à peu près 25 ans. Elle est née en 2000 et puis elle est née en Roumanie, mais elle est arrivée au Québec à l'âge de 3 ans. Et elle étudie, je crois, présentement en maîtrise en création littéraire à l'université. Puis bon, ben, ce texte très bref raconte ce qu'elle sait de la Roumanie parce qu'elle a dû y retourner, elle a dû rencontrer ses grands-parents où on lui aura raconté des choses, ce qu'on y mange, comment est-ce que les femmes y vivaient, les hommes. Et là, elle met en scène une jeune adolescente qui raconte cette histoire-là qui est un peu la sienne parce qu'elle avoue qu'elle a vécu quelque chose de très semblable à ce qui se passe dans le livre et qu'elle s'est inspirée de son expérience pour créer ce texte-là qui est autofictif. On peut dire ça, c'est autofictif et c'est fait par petits fragments qui sont plus ou moins chronologiques et qui racontent des choses du passé. Par exemple, on va avoir la description d'une table avec toute la nourriture, ce qu'on achète au marché, puis à côté des textos d'un garçon qu'elle rencontre, qui au début, bon, ben, c'est comme le début d'une relation amoureuse, mais qui devient tout à coup moins intéressante. Et nous, en tant que lecteurs, on se dit, oh non, elle va pas se laisser prendre, c'est pas vrai, là. Et puis, bon, ben, lui, il la manipule, il insiste, il est, je dirais, vraiment pas
un escroc.
Ouais, c'est ça. Puis aussi, il lui révèle des choses qu'il sait qui sont très discutables. Et puis elle, devant ça, elle sait pas trop quoi faire ni quoi dire. Alors, je vais vous donner un exemple. Il lui envoie un texto. L'affaire de la police, c'est qu'une fille plus jeune m'avait envoyé des photos, puis là, elle l'a dit à ses amis et au directeur. Elle avait 12 ans, donc moins pire que 11. C'est moi qui lui ai demandé. À un moment donné, elle voulait venir chez moi, mais je lui ai dit non parce que je l'aimais pas. Je la trouvais pas si belle. Quoique, faire circuler du contenu porno de filles de moins de 18 ans, c'est illégal, mais le policier m'a dit que c'était correct. Il m'a dit qu'il allait juste me donner un avertissement. J'ai été chanceuse. Alors, on comprend très bien que ce garçon-là veut la manipuler, puis prendre des photos d'elle, puis tout ça. Et là-dedans, ben, elle ne sait pas se défendre, elle n'ose pas en parler. Et à un moment donné, il va lui écrire « Je m'excuse encore, je m'excuse tellement, je suis désolée, c'est encore arrivé, ça n'arrivera plus, je savais que tu n'étais pas prête, mais je l'ai fait quand même. » Alors, suite à cette agression qui est racontée d'une manière, je dirais, fragmentaire, on voit bien venir la chose, ben, en même temps, il y a ce qui se passe dans sa famille, le silence qui existe sur les femmes qui ont vécu avant elle et la violence qu'elles ont subie. Sa grand-mère, à un moment donné, dit à son fils, qui est le papa de la jeune fille, « Toi, est-ce que tu bats ta femme? Je n'oublierai jamais combien ton père m'a battue. Maintenant, il est trop fatigué. Mais c'est la vie. » Alors, cette espèce de soumission décrit un petit peu, finalement, l'attitude de cette famille, puis de cette culture, peut-être aussi. Alors, elle nous raconte ce qui se passe au jour le jour à travers les textos. Puis là, ben, un peu plus vieille, la jeune fille va faire une poursuite. Et elle a tous les textos enregistrés dans l'ordinateur qu'elle va imprimer. Ça fait 500 pages. Là. Et elle va essayer de déposer ça pour finalement faire une plainte. Et puis bon, ben, on sent très bien derrière ça la machine de la justice qui n'est pas de son bord. Elle dit qu'elle a voulu faire des poursuites et puis bon, ben, on lui a dit oublie ça, là, ça sert à rien. Alors on comprend, c'est révoltant parce qu'on s'aperçoit que finalement une jeune fille qui subit ça n'a pas d'aide, que le système de justice dise que tes preuves sont pas assez bonnes, ça sert à rien de faire un dossier avec ça. Bref, moi habituellement quand je lis un livre là, je prends des notes en même temps. Mais là, quand j'ai lu celui-là, j'étais incapable de le quitter. Et quand j'ai tourné la dernière page, j'étais encore sous le choc. C'est une écriture qui fesse. Il n'y a pas de censure. Elle dit les choses telles quelles, mais c'est bien dit. Là. C'est pas du tout vulgaire ou quoi que ce soit. Là. C'est vraiment les choses telles qu'elles une personne les sent froidement sans pouvoir réagir. Et la page couverture, c'est comme un pion au jeu d'échecs qui est brisé. Et ça aussi, le jeu d'échecs et la symbolique, la métaphore de ça est importante dans le livre. C'est un livre qui est bouleversant, que tous les jeunes du secondaire devraient lire pour être mis en garde, parce qu'on a beau lui dire et tout ça, je pense qu'avec les réseaux sociaux, ils se font prendre. Et puis de voir aussi combien la justice aide pas toujours. Et elle a raconté dans une entrevue qu'elle-même, quand elle a vécu cette chose-là, elle a voulu se défendre. Puis on lui a dit, ça sert à rien, il n'y a rien à faire dans une situation.
On l'a découragée.
Ouais, c'est ça. Alors, donc elle a senti qu'elle devait écrire cette histoire-là, toute jeune, là, quand même. Mais c'est une autrice qui promet parce qu'elle sait dire les choses que personne n'ose dire, les dire bien. Et puis bon, ben on comprend que ce garçon-là, il y a un problème là. Puis bon, qu'elle n'a pas su, qu'elle n'a pas eu l'aide et que personne ne la croyait quand après elle a voulu se défendre. Et c'est une femme, la juge en plus, là, qui est là à la fin.
Ouais, d'autant plus choquant.
Ah, c'est un livre choc à lire absolument.
Femme silencieuse par Christina Vansiou aux éditions Héliotrope à lire absolument. Et Anne-Marie, vous avez lu aussi maintenant aux éditions Cheval Doux, Je mets mes rêves sur la table.
Oui, de Martina Šumová qui, elle, est née à Prague. Donc, cette fois-ci, là, j'ai deux autrices qui sont de pays étrangers, mais qui est arrivée au Québec à l'âge de 5 ans, toute jeune donc. Et elle a publié ce livre de 130 pages, qui n'est pas très long, qui a été finaliste au gouverneur général et finaliste au prix Nouvel Apport Métropolis Bleu en 2025. C'est un livre qui n'est pas un roman, mais une espèce d'autofiction où, justement, un certain nombre de fragments sont là, ensemble, réunis dans différents chapitres qui décrivent un petit peu la situation d'une jeune mère. Et c'est, bon, c'est sans doute autobiographique du début jusqu'à la fin.
Une structure qui ressemble à celle de Femmes silencieuses?
Non, pas du tout.
Pas du tout? Okay.
On n'est pas dans la révélation personnelle d'une situation d'une jeune fille, mais d'une situation d'une mère. Dans la société, à Montréal, aujourd'hui, comment est-ce qu'elle arrive à survivre? Alors donc, elle a eu son enfant, elle avait 21 ans. Et puis son fils grandit, et puis on sent qu'il s'en va vers l'âge adulte, et puis qu'elle a le besoin de retourner dans son passé pour finalement faire le pont entre le début de son existence, la naissance de son fils, sa vie de mère, etc. Quand il est grand, il est plus autonome, puis elle sent qu'il a l'âge presque qu'elle avait quand elle a mis un enfant au monde. Mais là, c'est toute une vie différente. Puis elle dit, moi, je suis anachronique parce que dans mon pays, les femmes qui ont 21 ans ont 2-3 enfants. Puis ici, au Québec, les femmes de 21 ans sont pas prêtes du tout à être mères et pensent à faire une carrière, à faire autre chose. Donc, elle explique comment est-ce qu'elle a vécu ça. À partir de sa vie de couple, elle était amoureuse d'un garçon, puis ensemble, ils ont eu un enfant. Et puis là, après ça, elle s'est séparée de cet homme-là. Puis l'enfant, il a pris beaucoup de place dans sa vie, mais en même temps aussi la solitude, la précarité, parce qu'à un moment donné, elle avait été évincée de son logement, puis là, elle est en quête d'un appartement en ville. Elle se questionne donc sur le sens de sa vie, son travail, entre sa passion et puis comment je peux payer mon loyer. Alors, elle dit qu'elle a un travail qu'elle n'aime pas, mais qui permet de gagner sa vie avec une équipe sympathique, mais que c'est pas ça qu'elle voudrait faire. Et combien de gens sont dans cette situation-là? Donc, la précarité, la santé mentale, parce qu'elle fait une dépression, puis à un moment donné, elle raconte ses angoisses, ses doutes. Puis dans ces périodes de dépression, de grande fatigue, on reconnaît beaucoup de femmes et de mères qu'on connaît, puis elle n'ose pas en parler à sa mère. Parce que quand sa mère lui dit « Comment vas-tu? Ah, tout va, tout va. » C'est qu'elle va à la clinique, puis là, elle déballe son sac devant un résident qui est là, un médecin qu'elle connaît pas, puis elle dit que finalement, c'est peut-être plus facile de se confier à quelqu'un qu'on connaît pas qu'autrement, où on est parfois jugé, justement. Puis son fils, je pense que c'est celui qui l'a tenu en vie à travers tout ça, parce qu'elle l'aime beaucoup, puis elle est toujours inquiète, elle se demande toujours... Est-ce que je serai une bonne mère? Est-ce que je vais être capable de bien l'éduquer? Et il y a un passage où il y a plein de petits souvenirs, de petites anecdotes à propos du fils. Et puis je cite un passage où elle dit que tout petit, il m'a demandé, quand je serai plus grand que toi, penses-tu que les gens te prendront pour ma fille? Là, il y avait peut-être 3-4 ans. Puis effectivement, les enfants, ils mesurent les gens à leur taille. Et je me souviens que moi, ma petite fille ne comprenait pas pourquoi j'étais plus petite que ma fille qui me dépasse en taille, mais ça n'a rien à voir. Mais quand ils ont 2-3 ans, pour eux, tout se mesure. Donc, elle a une très belle écriture, très poétique, remplie de citations d'auteurs qu'elle a lues sur toutes sortes de sujets. Puis, à travers les pages, il y a le dessin d'un enfant, un gribouillage, une photographie, une page avec des notes qui montre son quotidien. Comment est-ce que, finalement, tout ça meuble sa vie. Et puis, elle se dit, dans un moment où elle déprime, puis qu'elle voit là, qu'il faut qu'elle remonte, puis qu'elle refasse surface, qu'elle se dit que c'est très pénible d'avoir peur toujours de retomber. Elle dit que ce serait tellement commode, miséricordieux, de disposer d'un bouton on-off qu'on actionnerait. Alors ça, j'ai souvent pensé à ça. Si on pouvait mettre la pile en dehors et bien dormir, arrêter de penser à tout ça. Puis elle confie ses rêves, ses cauchemars, parce qu'elle fait des rêves parfois qui se passent dans son pays d'origine, parfois au Québec. Et puis bon, ben c'est des moments difficiles qu'elle décrit. Et ce qui fait qu'on aime cette personne-là, c'est sa vulnérabilité, sa sensibilité et finalement la vérité, l'authenticité de son propos. Puis une vraie mère, alors, elle est une vraie mère, même si elle se le demande tout le temps. Elle est très proche de son fils. Puis à un moment donné, elle garde dans son vieux téléphone cellulaire un long message où lui explique un jeu vidéo avec beaucoup de passion. Et ça, c'est comme son moteur, finalement, de voir que cet enfant-là a besoin d'elle et que pour lui, elle va faire des sacrifices, puis elle va faire tout ce qu'elle peut pour qu'il soit heureux. Et il y a quand même de l'espoir dans ce texte. Elle cite des passages intéressants qui font en sorte que ça lui donne, elle, l'énergie pour survivre, pour continuer, même s'il y a des passages parfois très tristes et très difficiles, très injustes dans ça. Alors, c'est un très beau livre sur la situation d'une femme qui est seule souvent avec son enfant, qui tente de vivre de son art. Elle, dans son cas, c'est une écrivaine, dans un monde difficile et qui a traversé à travers ça la pandémie, puis tout ce qu'on connaît sur la situation des personnes seules à Montréal, en ville, et qui sont mères en plus. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre-là, qui est très différent de l'autre, mais jusqu'à un certain point, décrit une situation de femme, mais plus âgée. Mm-hmm. Elle est un peu plus vieille que l'autre. Elle a vécu autre chose. C'est une mère. L'autre, c'est vraiment la fin de l'adolescence qu'elle
et
raconte.
Les deux récits sont composés de fragments. C'est pour cette raison que je parlais de structures semblables. Ah, il y a de l'autofiction aussi.
Oui, c'est vrai. Là-dessus, vous avez raison. Je n'avais pas bien compris. Oui, effectivement, au niveau de la structure, ça se ressemble. Quoique, elle, dans le sien, c'est pas chronologique. L'autre, elle nous décrit vraiment la situation. On voit venir ça, là. Mais là, ici, c'est regroupé. Comme par exemple, ça s'appelle arithmétique parentale. Ça regroupe un paquet de petits fragments sur la vie arithmétique, dans le sens de comment il faut conjuguer quand on est parent dans la vie aujourd'hui avec un enfant. Alors, c'est un très beau livre que je recommande chaudement.
Je mets mes rêves sur la table par Martina Shumova. Merci beaucoup, Anne-Marie. Je vous souhaite du bon temps, de belles lectures et on se retrouve dans 2 semaines.
Parfait, au revoir.
Mes larmes se taisent, je m'accroche à ses rêves. Soleil en sommeil, l'ego se réveille. Je veux pas que tu vois qu'en bas je me noie. Tout me ramène à toi.
Merci Maurice d'avoir ajouté à notre discothèque Apollone et sa chanson Pas la peine.
Oui, ça met de bonne humeur cette chanson, même si le propos est plus ou moins gay. L'équipe de la Défense travaille à créer une organisation inclusive des personnes handicapées, synthèse de la table ronde, c'est publié aujourd'hui. Au début du mois de novembre, des membres de l'équipe de la Défense se sont réunis en personne et virtuellement pour célébrer la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Bannière violette portant l'inscription « Journée internationale des personnes en situation de handicap » instituée par les Nations unies, la journée vise à sensibiliser la population aux obstacles auxquels se heurtent les personnes en situation de handicap et à favoriser leur pleine et égale participation dans toutes les sphères de la société. Elle sert également de plateforme pour défendre les droits et la dignité de ces personnes. Pour l'équipe de la Défense, la Journée internationale des personnes en situation de handicap permet de promouvoir l'égalité dans notre milieu de travail et de réaffirmer notre engagement à combler les lacunes et à éliminer les obstacles au sein de notre organisation. Le thème de la table ronde hybride, promouvoir une organisation inclusive des personnes en situation de handicap, portait sur la culture que l'équipe de la Défense aspire à bâtir et à orienter les questions posées. Les panélistes ont abordé un grand nombre de sujets, des adaptations appropriées, du lieu de travail au conseil qu'il donnerait aux nouveaux membres de l'équipe de la Défense en situation de handicap. Pour visionner ou revisionner cette discussion, veuillez consulter la page de la campagne de la journée sur canada.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'accessibilité au sein de l'équipe de la Défense ou pour prendre connaissance du plan visant à éliminer les obstacles pour les personnes handicapées, vous pouvez consulter le rapport d'étape 2024 du plan d'accessibilité de l'équipe de la Défense. Si vous souhaitez soutenir l'accessibilité en donnant des conseils à la direction de l'équipe de la Défense au sujet des obstacles qui empêchent la représentation équitable des personnes en situation de handicap, vous pouvez vous joindre au groupe consultatif de la Défense pour les personnes en situation de handicap en communiquant avec le secrétariat des groupes consultatifs de la Défense. Si vous avez des questions sur l'accessibilité ou si vous cherchez des ressources liées à l'accessibilité, vous pouvez communiquer avec le Bureau de l'accessibilité de l'équipe de la Défense. Vous pouvez aussi fournir une rétroaction anonyme sur l'accessibilité et signaler des obstacles en remplissant le formulaire de la rétroaction d'accessibilité de l'équipe de la Défense. Alors, je vous donne une adresse courriel, accessibilité. Alors, accessibilité en anglais avec un Y, trait d'union accessibilité avec un E sans accent, barre de soulignement, MDM en lettres majuscules, @ force au pluriel, .gc.ca.
Tant pis pour elle, quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle. Qu'elle brûle avec elle, retour à l'essentiel. Moi le bleu de tes yeux et toi le dieu de mon ciel. Quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle. Qu'elle brûle avec elle, retour à l'essentiel. Moi le bleu de tes yeux et toi le dieu de mon ciel. Fini ce bordel. Hésitation à terme, c'est moi que tu aimes, t'as donc plus besoin d'elle. C'est la fin de tes querelles, tes pluies torrentielles. Elle, elle pleuvait sur toi, moi je te donne des ailes. Tu me donnes des ailes, et on s'échappe du système. Que je le vide de tes veines, jusqu'à ce que rien te rappelle. Regarde mes lèvres, qui invitent les tiennes. Pour elle, quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle. Qu'elle brûle avec elle, retour à l'essentiel. Moi le bleu de tes yeux et toi le dieu de mon ciel.
Dans mon ciel.
Charlotte Cardin, sa chanson « Tant pis pour elle ».
Oui, chose promise, chose due. On vous avait dit qu'on la présenterait ou la diffuserait aujourd'hui ou en tout cas cette semaine. Et ça s'est passé aujourd'hui. Je vous rappelle que Charlotte Cardin est en nomination pour 3 trophées victoires, dont 2 citations dans les catégories chanson originale et vidéoclip de l'année pour « Tant pis pour elle ». C'est Charles Lecavalier dans La Presse Plus qui écrit « L'Autorité des marchés publics, l'AMP, sanctionne la gestion du projet ». Ça clique, le chien de garde a détecté des irrégularités, une planification déficiente et des techniques de fractionnement. À l'avenir, la Société de l'assurance automobile du Québec devra lui rendre des comptes tous les 6 mois. L'AMP a dévoilé mardi, aujourd'hui, une série d'ordonnances visant la SAAC. La Société d'État devra notamment réaliser un audit en temps réel par les vérificateurs internes de la SAAC du contrat cadre et des contrats connexes et d'informer l'AMP, donc l'Autorité des marchés publics, des résultats tous les 6 mois. Sur cet air avec une trompette, sur cet air de trompette, magnifique en passant, je vous dis un grand merci d'avoir été à l'écoute. Merci Mathieu Tessier, en régie à la console et à bien plus. Ici Hélène Denis, à demain.
Après la